RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 17h05, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. Pendant une heure encore, on se repasse le film des premiers jours de course. Et là, on accélère. Vendredi dernier, arrivé à Fougères, on pensait Mark Cavendish fini. Bah pas du tout. L'Anglais a mis tout le monde d'accord pour remporter sa 25e étape sur le tour. Devant lui, il n'y a que Bernard Hinault avec 28 et Eddy Merckx 34. Est-ce qu'il peut les rattraper? C'est le débat qui agite notre Dream Team.
RMC Intégral Tour.
Au témoin d'un doute, vous évoquez Sagan, vous évoquez Greipel, vous évoquez Christophe.
Et Cavendish aussi.
Vous n'avez pas une seule fois évoqué Cavendish. Pour vous, il est fini, Cavendish?
Disons que le profil de l'arrivée Faux-Plat-Montant convient a priori davantage à des coureurs comme Degenkolb ou Sagan qu'à Cavendish. C'est une bonne question, Cyril. Est-ce que Cavendish est out? Est-ce que Cavendish plafonnera ad vitam aeternam à 25 victoires d'étape, ce qui est déjà phénoménal, mais
n'oubliez pas que il a gagné à Cap-Fréhel, il n'avait encore rien gagné depuis le début du tour, et que Cap-Fréhel c'est 10 fois plus dur que l'arrivée aujourd'hui.
Sauf que c'était il y a 2 ans. Alors est-ce que Cavendish
c'est bien pour ça que je pose la question.
C'est une excellente
considérez-vous
question.
qu'il est sur le déclin quoi.
On aura la réponse dans 5 minutes, puisqu'il reste 1 km 600 5 minutes.
3 km un peu moins maintenant de l'arrivée à Fougères avec les équipes de sprinteurs qui ont pris la main, les Giant Alpecin pour John Degenkolb qui est toujours Fanny Degenkolb face à son compatriote André Greipel, déjà double lauréat d'étape depuis le départ du tour. Il va peut-être falloir penser à scorer pour le vainqueur de Paris-Roubaix, le vainqueur de Milan-San Remo, John Degenkolb qui a sonné la charge, les Giant Alpecin accompagnés sur la droite de la route par les Etix Quickstep de Mark Cavendish. Hier, Stibar s'était imposé, le tchèque de la formation belge. Il y avait eu Tony Martin qui avait du même coup endossé le maillot jaune à Cambrai. Cette fois, est-ce que Cavendish va être le troisième homme chez Etix Quickstep? On est à 2 km de l'arrivée. Warren Barguil, le coéquipier de Degenkolb, est en train d'emmener le train noir Giant Alpecin et on aperçoit les FDJ pour Arnaud Démare, l'ancien champion de France. Est-ce que ça va être le réveil d'Arnaud Démare aujourd'hui? On est à 1 km 800 de la ligne d'arrivée.
1 km 800 de la ligne d'arrivée, ce sont les coéquipiers d'Arnaud Démare qui emmènent le sprinter maison. Arnaud Démare 7e, on le rappelle, du dernier sprint massif, c'était il y a 2 jours.
Sébastien Chavanel, le frère de Sylvain, qui est le seul équipier d'Arnaud Démare. Arnaud Démare en deuxième position, Chavanel qui tire un long bout droit, qui prend un long relais à 1 km 500 de la ligne. Les FDJ vont être maintenant débordés par les Katyusha d'Alexander Christophe et les Giant Alpecin de John Degenkolb. Retour à la normale à 1 km 300 de la ligne d'arrivée. Arnaud Démare a été bien placé. Sébastien Chavanel peut se relever. Les Lotto Soudal emmènent parfaitement André Greipel en 4e position du peloton maintenant. Vous le voyez, parole aux sprinteurs ici à Fougères.
Et ce sont les coéquipiers de Greipel qui mènent maintenant le peloton. On rappelle, Greipel déjà victorieux à 2 reprises sur les routes du Tour 2015.
André Greipel bien emmené par Marcel Sieberg, son compatriote allemand, mais aussi par Tony Galopin, le petit français de cette formation belge. Greg Anderson est là également pour emmener André Greipel. André Greipel qui n'est pas dans la roue immédiate. Ça y est, il est emmené par Greg Anderson au centre de la route. Les Katyusha pour Alexander Christophe. À gauche, Mark Cavendish est un peu esselé. Mark Cavendish qui a perdu ses repères. On se donne des coups dans le peloton à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Les Katyusha avec Alexander Christophe en deuxième position. Cavendish troisième. André Greipel quatrième. André Greipel qui lance le sprint de loin. Plein centre dans ce faux plat montant. Greipel va tirer faire la place de 3. Il est débordé sur la droite de la route par Cavendish et sur la gauche par Sagan. Victoire de Cavendish sur la droite à l'intérieur dans ce faux plat montant qui tournait à droite. Cavendish n'est pas fini. Loin de là. Il
Merci.
A fait parler l'orgueil. Bravo Cyril.
Bravo
26e étape sur le Tour de France dans l'escarcelle du Manxman, le sprinter de l'île de Man, qui après la victoire de Tony Martin, celle de Zdeněk Cibar, vient compléter le tableau d'honneur de sa formation Etix Quickstep. Victoire de Cavendish devant le maillot vert d'André Greipel. Il me semble que Peter Sagan prend la troisième place.
Un
nouveau
Sagan.
Podium. 1 Cavendish, 2 Greipel, 3 Sagan, 4 Degenkolb. C'était bel et bien parole pour le sprinter ici à Fougères.
Exactement. Et Cyril a eu raison de poser la question il y a de cela quelques instants. Il y a à 3 km de l'arrivée, Cavendish, est-ce que vous croyez encore à Cavendish? On était un petit peu sceptique. Eh bien, on a eu la réponse. Quelle belle réponse du sprinter britannique, Cyril, hein.
Oui, il était un petit peu esselé. Je dois dire qu'il en a eu une paire à un moment parce que ça chauffait énormément à son endroit. Il a, comme à son habitude, un petit peu à la Boigny, où c'est Boigny qui fait du Cavendish, ouais. Mais il s'est fait la place tout seul.
RMC Intégral Tour.
Marc Cavendish qui a donc remporté tout à l'heure la 7e étape de ce Tour de France entre Livaro et Fougères. On savait que l'étape était réservée aux sprinteurs, même si quelques baroudeurs ont bien tenté de leur fausser compagnie, pendant un long moment, mais Cyril, on le savait. Aujourd'hui, c'était pour les sprinteurs. Ils n'auront pas beaucoup d'autres occasions de briller sur les routes du Tour d'ici l'arrivée sur les Champs. C'était quasiment leur dernière chance avant les Champs-Élysées dans un peu plus de 2 semaines. Donc là, l'occasion était trop belle pour les sprinteurs.
Hein. L'occasion était trop belle, elle était presque unique, en fait, du moins sur cette première partie de Tour de France, puisque entre demain, ce sera Mur de Bretagne, après vous aurez un contre-la-montre par équipe, derrière on va avoir un gros transfert qui va nous emmener au pied des Pyrénées, et là, tous les jours, eh bien, on grimpera, on descendra aussi, mais ça prend beaucoup moins de temps, donc les sprinters ne devaient pas se rater, ou tout du moins Cavendish ne devait pas se rater. Greipel, il peut se rater, il en a déjà gagné 2, Peter Sagan avait besoin de gagner, mais lui, il s'est encore raté aujourd'hui, mais ceci dit, il aura l'occasion, lui, d'aller chercher d'autres victoires d'étape sur des étapes plus difficiles sans être de la haute montagne. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que des coureurs soient partis dans un raid de 180 km alors qu'on sait très bien que c'est pas possible d'aller au bout. Non, toutes les équipes de sprinters qui n'ont pas gagné vont rouler dans le final. Elles vont laisser prendre 2-3 minutes.
C'est tout,
attends, partir au départ, se faire mal aux jambes.
Mais ce sont des échappées
pour
rien. Non.
Oui, mais moi je veux bien.
La meilleure publicité, c'est de gagner.
Un directeur sportif qui me disait d'attaquer dès le départ aussi. Donc fallait aller dans les coups, Cyril. T'es atteint d'Alzheimer.
T'étais le premier à nous dire, Cyril.
Mais il n'y a pas de course, sinon.
Vous êtes de mauvaise foi.
Ah bah d'accord.
Mais alors c'est pas pire.
Mauvaise foi.
Si j'ai fait attaquer au départ, moi je vais te dire où j'ai fait attaquer au départ.
Non. Tu vas dans les coups.
Tour d'Italie avec la montée du Stelvio pour jouer le Giro. Oui. On a durci la course, on a durci collectivement la course. On s'est retrouvé avec un groupe qui a réussi à partir avec 2 coureurs de chez nous, je crois Vilmian et Bernodeau, et on a récupéré Bernodeau dans la montée du Stelvio. C'est des attaques qui servent à quelque chose dans la course. Mais partir faire un raid publicitaire, mais attendez, vous rigolez. Le vélo c'est pas de la
Cyril,
publicité.
Cyril, pour une
mais
équipe
si, aujourd'hui, si c'est
pour
comme
une
ça,
équipe
maintenant.
Comme Bretagne Séchant Environnement, c'était important aujourd'hui de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont bien présents dans le Tour, et en plus ils ont franchi la frontière symbolique de la Bretagne en rentrant en tête. C'est important quand même pour une équipe qui aura du mal à décrocher des victoires d'étape.
Une seule chose qui a de l'importance, c'est gagner.
Mais d'accord, mais quand tu peux pas gagner à la pédale les étapes, c'est bien au moins de montrer que t'existes, non?
Non, je sais pas.
Donc le panache,
c'est
pas ça le panache.
Cyril, elle se fait comment l'étape?
Mais ça veut dire quoi?
Comment on prend un balai?
Hein, on balaye la scène de théâtre, là, du théâtre, pour que les stars viennent ensuite.
Tu sais ce qu'il faudrait
cette scène
tu sais
sans ce.
Mais de temps en temps, il y a des coups qui peuvent arriver au bout. C'est
et
arrivé.
Tu sais ce qu'il faudrait mettre
pas aujourd'hui.
Tu sais ce qu'il faudrait mettre avant que les coureurs attaquent, c'est le générique. Ah, toup, 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 toup. Tu te rappelles sur France 2, c'est la pub.
La pub dans
oui, la publicité, le truc.
Mais les mecs, dites-moi une étape comme aujourd'hui, ça se passe comme ça.
Et voilà, t'as les mecs qui partent, voilà.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des étapes.
On fait quoi aujourd'hui?
Des coups, mais pas aujourd'hui.
Mais on fait quoi aujourd'hui? Donc on se balade.
Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu laisses les
filles pas. Joli, sorti de vélo.
Non, mais l'Érythréen, quand il a fait son, quand il a fait son premier, quand il a marqué son point, là, il fallait qu'il se relève.
Mais il a fait la même petite
chose. Mais il s'est relevé à 10 bandes de l'arrivée, quoi. Non, mais attends. Non.
Non. Non, non, toi, tu es d'accord avec ton ancien directeur sportif.
À la limite, qu'il parte pour marquer le premier point. Ok, mais
qu'est-ce qu'on pourrait s'emmerder avec des mecs comme ça?
Après avoir marqué le premier point, il aurait dû stopper.
Il y a 190 mecs qui font de la balade. Le tour, c'est long. On fait un sprint au final.
T'imagines, après, il va se faire une fracture du crâne dans le premier col dans les Pyrénées.
On se serait ennuyé encore plus que ça a été le cas aujourd'hui.
Mais attendez, la course,
la course serait partie plus loin s'il n'y avait pas eu d'échappée.
Tu penses que des échappées auraient pu.
60-70 km de l'arrivée, tu peux avoir des vrais mouvements.
C'est rare de voir une course sans échappée. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Tour de France ces dernières années, de voir une étape de plat sans que des baroudeurs tentent leur chance.
Non, mais des baroudeurs.
Des échappés, je ne sais pas comment tu les appelles, comme tu veux.
Soyons sérieux, il y a les trois premiers coureurs qui lèvent le cul au moment où Prudhomme baisse le drapeau, et ces trois coureurs s'en vont. On dit c'est des baroudeurs. Ils sont même pas. On les a laissés partir.
Oui, c'est maintenant c'est comme ça. Ouais,
les baroudeurs, c'est ceux qui ont la pédale.
Là, je te rejoins.
Tu as raison, c'est vrai. Avant, il y avait quand même
une heure de course normalement.
Résistance du peloton pour limiter les échappés, pour chaque fois essayer de prendre le bon coup. C'est plus le cas.
Ça n'existe plus. C'est-à-dire que les trois premiers qui lèvent le cul.
Alors pourquoi?
Parce que vous avez 4 ou 5 équipes, ça les intéresse. Une fois que le coup est parti, qu'il a 6 ou 7 minutes, eh ben ça a rendu tout le monde bien calme. Voilà. Et puis, les gros équipes.
C'est parce que tous les directeurs sportifs parlent comme toi.
Pourquoi ils parlent?
Parce qu'on interdit aux coureurs de relancer derrière.
C'est clair.
Et c'est tout. Pub. C'est pour ça qu'on a des courses de merde.
Mais c'est exactement ça aujourd'hui. Tu es vulgaire.
Très bien. Il y en a un qui ne passe pas inaperçu. C'est évidemment Marc Cavendish, qui avait été un peu humilié, il faut bien le dire, depuis le départ de ce Tour de France dans les sprints. On pensait vraiment qu'il était en semi-retraite ou presque sur ce Tour de France. Ne vous amusez pas à aller lui poser ce genre de questions, parce que Pierrick Ten tout à l'heure a essayé de poser une question. Il s'est fait bâcher, mais sévère, par Marc Cavendish, qui, quand il retrouve le chemin de la victoire, retrouve un peu de hargne, comme
c'est
ça a été le cas
fair play british, non, qu'on appelle.
Voilà, ça doit être le fair play british. En tous les cas, 26e victoire d'étape, c'est quand même pas mal, hein. Il est à 2 victoires de Bernard Hinault et à combien? À 8 victoires de Eddy Merckx. Alors ce soir, on se pose la question de savoir si il pourra battre ce record de 34 victoires d'Eddy Merckx. On rappelle que Marc Cavendish n'a que 30 ans, hein. Lucho, c'est pas si vieux que ça pour un coureur cycliste.
Non, bien au contraire, hein. Il a encore moins 4-5 bonnes années à faire devant lui. Bon, après, c'est vrai que plus les années passent et moins il sera vif dans les sprints. Mais tu regardes Greipel, qui est quand même plus âgé, je pense, que Cavendish. Il arrive encore à remporter des étapes. Il est à la 27e. Il lui en faut encore 8. Il peut arriver au coude à coude avec Bernard Hinault à la 28e s'il gagne les Champs-Élysées. Après, il faudra attendre peut-être
encore 26. Il en faut 26.
Il en faut 2. Donc, il faudra attendre un petit peu pour arriver.
L'année prochaine.
Tu penses que l'année prochaine, il peut égaler Hinault et ensuite.
Je pense à la limite qu'il a envie d'égaler Hinault et de se rapprocher de Merckx. Oui, je pense que c'est l'un de ses objectifs quand tu regardes le nombre de victoires qu'il a. Il lui en faut quand même encore quelques-unes. Mais ceci dit, c'est pas insurmontable.
Cyril, ton avis là-dessus?
Non, Merckx, il ira pas le chercher.
Il faut
imaginer aujourd'hui, parce qu'il a. Il y a des années où il gagnait 4 étapes, 5
6 victoires en 2009, par exemple.
Il y a 4 ou 5 ans, il avait la flamme, il avait la foi. Il avait aussi une équipe qui était super bien organisée autour de lui. Non pas que celle actuellement ne le soit pas, mais surtout, il avait moins d'adversité. Attendez, aujourd'hui, il a un Greipel qui arrive très fort, il a Kittel qui arrive très fort, il a Degenkolb qui continue de progresser,
Christophe,
il a les Français
Christophe,
qui vont arriver aussi, Boigny, peut-être pas ouais. cette année, mais qui arrivent. Et puis, il s'est pris quelques râteaux, il s'est pris quelques gaufres. Vous freinez un peu plus que quand vous avez 23, 24 ou 25 ans. Et donc là, si vous retirez un petit peu, c'est des victoires qui s'en vont. Sauf qu'aujourd'hui, il a partiré.
Ouais, mais Cyril, ce que j'ai vu depuis, ça fait 2 ans quand même que Cavendish n'a plus l'explosivité qu'il l'avait avant, parce que quand il partait pour le sprint, il décollait mais de 2 mètres tous les adversaires. Alors que
d'accord.
Là aujourd'hui, bon, il va gagner le sprint de belle façon, mais un peu plus à l'arrache. Et quand il accélère, on a vu le sprint
marche,
de la deuxième
il a moins
étape.
Que les autres années.
Ça, l'accélération ne met pas
vite,
dans le vent les
autres qui sont peut-être rapprochés. C'est toujours le problème. Alors effectivement, il fait moins d'écart, mais j'ai le sentiment que Greipel va plus vite qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans.
le problème, c'est toujours la même chose. Il faudrait presque avoir des chronos sur des sur des portions bien précises, à peu près, que l'on pourrait comparer. Moi, je pense qu'il va peut-être un tout petit peu moins vite, mais que les autres se sont rapprochés de lui.
C'est sur les watts qu'il faudrait voir.
Et à partir de ce moment-là, les différences sont moins importantes. Et puis, avant, il pouvait se permettre de faire une faute de placement. Comme je dis toujours, tu fais le grand tour et tu vas finir par passer. Là, s'il fait une faute de placement, il est mort, quoi.
Ouais. Bruno est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Gironde. Il voulait intervenir dans notre débat concernant Cavendish et le record mythique d'Eddy Merckx. On vous le rappelle, 34 victoires. Salut, Bruno.
Salut tout le monde.
Salut Bruno.
Alors,
salut.
Bruno, il va aller le chercher, ce record du cannibal.
Il y en a un qui est bien capable de le faire. Je crois que c'est lui. Alors, ça répond qu'à moitié à la question, mais... Je serais plutôt optimiste sur cette question, parce que c'est vrai qu'il les ramène plus par 4 ou 5, mais allez, il en reste pas des tonnes, hein, même si ça sera peut-être les plus durs, mais je veux dire, des sprinteurs comme lui, quoi, c'est assez incroyable, et pourtant il y en a eu des bons, des Petaki, des Cipollini, des Abdou Japarov, mais lui, quoi, je veux dire, c'est année après année, il est toujours là. Ok, les autres poussent, mais il a encore gagné aujourd'hui. Pour moi, voilà, meilleur sprinter, je crois qu'on peut le dire, si on l'avait pas encore dit, de tous les temps, quoi. Allez, je vis que là. Bon, même si on peut peut-être pas comparer les époques et les décennies. Il transpire l'envie de gagner, de croquer tout le monde. Alors, je sais pas s'il pense vraiment au record de Merckx. Mais voilà, quoi, il a envie de gagner, et il a que 30 ans, et je crois qu'il va y arriver.
Je ne suis pas sûr qu'il sache combien Merckx a gagné d'étapes, hein.
Oui, alors ouais. on lui a posé la question tout à l'heure, il dit, moi je cours pas après les records, c'est pas ça qui m'intéresse.
C'est là qu'il est bâché, non?
On va écouter Patrick Lefebvre, qui est son directeur sportif, le patron de la formation Ethics Quickstep, qui est plutôt manager d'ailleurs, Lefebvre, qui parle de Cavendish, qu'on avait un petit peu critiqué depuis quelques temps. La réponse de Patrick Lefebvre.
Bah, je pense que tout le monde peut être jaloux sur Mark Cavendish. 26 victoires dans le Tour de France. Il y a peu de gens qui puissent faire ça ou dire ça. Pour ceux qui ont déjà fini leur carrière de sprinter de Mark Cavendish ce matin ou hier, tant pis pour eux, ça veut dire qu'ils connaissent rien du cyclisme.
Voilà, ils connaissent rien du cyclisme, ceux qui ont enterré Mark Cavendish.
Il change pas, hein.
Qui, Patrick? Patrick Lefebvre? Non, bah, il est toujours là, il défend ses hommes, évidemment. Ah, il en a
normal,
gagné avec,
hein,
c'est un drôle de druide belge, lui aussi, hein, Cyril, quand même, hein.
Ah, c'est un spécialiste des courses d'un jour, et
ouais,
puis, des sprinters.
Classiques.
Mais je crois qu'il n'a jamais gagné le tour,
hein. Il a jamais gagné le Tour de France.
Je crois qu'il a jamais gagné un grand tour, peut-être même.
Ah ouais, mais bon, voilà, il a.
Donc, il est spécialisé.
Paris-Roubaix, je me rappelle de certaines.
C'est un belge flamand, donc. Ouais. Il voit surtout les courses d'un jour. Ouais.
RMC Intégral Tour.
Et il n'y a pas que les Anglais qui gagnent sur le Tour de France. La victoire française, c'était samedi, c'était à Mur de Bretagne, et le vainqueur s'appelle Alexis Villermoz. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 17h25, l'intégral Tour continue jusqu'à 21h et on a eu le premier cocorico du Tour de France samedi avec la victoire d'Alexis Villermoz à Mur de Bretagne. Doit-il devenir le leader de l'équipe AG d'Auxerre? Le débat divise nos membres de la Dream Team RMC Sport.
RMC Intégral Tour.
Un petit coup de giclette et là tu peux faire la différence parce que tout le monde se regarde et c'est à qui ira chercher celui qui part.
Ouais, ça n'attaque pas encore, hein, Cyril. Tout le monde s'observe pour l'instant à 1,5 km
voilà,
d'arrivée.
S'observe. Non, ça monte vite. L'observation, elle est terminée. Il n'y a pas d'attaque, c'est vrai, mais ça monte trop vite pour qu'il y ait des attaques à cet endroit-là. On a pu voir également que Boasson-Hagen était relativement bien placé. Alors peut-être la première accélération maintenant.
Oui, la première accélération sur le côté gauche de la route, Fred.
Oui, d'un coureur de la formation Bora, l'équipe allemande invitée par les organisateurs du Tour de France qui avait placé
Villermoz
Ouzarski dans l'échappée du jour. Villermoz a accompagné tout comme Simon Yates, me semble-t-il, le britannique de l'équipe Orica Greenedge, Alexis Villermoz, le grimpeur jurassien de la formation AG2R La Mondiale, en tête du peloton à 1,3 km de l'arrivée. Il a trouvé que ça ne montait pas assez vite. Lui, qui est un poids plume, est en train de faire la montée avec 1200 mètres encore à parcourir, mais ils sont longs, ces 1200 mètres.
On est en côte.
Daniel Teclaïmanot, le meilleur grimpeur, est passé par la fenêtre.
Ouais, Teclaïmanot qui va probablement perdre son maillot à poids rouge de meilleur grimpeur. Villermoz toujours en tête, mais il est en train de couper son effort. Il demande aux autres de prendre le relais et derrière, ça revient très fort. Il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, pour les trois hommes de tête.
Oh non, une dizaine de mètres seulement. Alexis Villermoz qui a dans sa roue Simon Yates, c'est Roy Kurvers, un équipier de Degenkolb et Barguil chez Giant Alpecin. Alexis Villermoz qui continue à faire le forcing, mais qui se retourne à droite, à gauche.
Il se retourne trop.
Et à l'avant du peloton, c'est Christopher Froome qui emmène le peloton peloton tout seul, il n'a plus d'équipe qui est le maillot jaune.
Voilà, le patron, le maillot jaune en personne qui est en train de reprendre les trois hommes de tête alors que justement il passe à l'instant même sous la banderole du dernier kilomètre, la flamme rouge.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Et c'est Chris Froome aller chercher la victoire d'étape. Pourquoi pas, Chris Froome qui montre qu'il est bien le patron de ce Tour de France, lui qui porte le maillot jaune. Les autres favoris sont dans un deuxième rideau, Fred. Et
Christopher Froome avec dans sa roue Purito Rodriguez, Alexis Villermoz dans la roue du maillot jaune, Peter Sagan est quatrième, Tony Gallopin cinquième, Simon Yates, le britannique d'Orica septième, Alejandro Valverde évidemment là, Dan Martin neuvième, on aperçoit Van Garderen, Quintana 11, Warren Barguil 12, Samuel Sanchez est là, où est Contador, accélération à l'instant d'Alexis Villermoz.
Villermoz, oui, véritable attaque, ouais, une vraie attaque d'Alexis Villermoz alors qu'effectivement Nibali lui est retardé à l'arrière du peloton maillot jaune, mais Villermoz qui est peut-être parti pour une victoire d'étape.
Il coince Vincenzo Nibali, vainqueur sortant du Tour de France. Accélération d'Alexis Villermoz à 500 mètres de la ligne d'arrivée.
Allez,
c'est Dan Martin le...
Allez, Villermoz.
Dan Martin, l'Irlandais de Garmin, qui vient de sortir en contre-attaque. Les favoris ne réagissent pas. Alexis Villermoz, le Jurassien qui a déjà connu un Tour de France, qui en est à son deuxième, qui arrive en haut de la côte à Mur de Bretagne. Il compte une cinquantaine de mètres d'avance sur Dan Martin. Devant Sagan, Sanchez, Galopin, Valverde, Quintana, Contador et Froome s'observe. Villermoz est en train de faire la bonne opération.
La bonne opération par Alexis Villermoz que Frédéric Adam avait donné vainqueur.
Moi aussi, je l'ai donné hier.
Villermoz qui va s'imposer dans quelques instants, il appelle Trou Fred. C'est la victoire pour Villermoz dans un instant.
Alexis Villermoz, coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, qui à la manière de Blel Kadri il y a un an sur les hauteurs de Gérard Armé vient s'imposer devant Dan Martin. Victoire de Villermoz devant Martin, Valverde et Sagan. Tony Gallopin vient prendre une nouvelle place d'honneur. Alexis Villermoz, coureur issu du VTT, encore tout jeune, qui était là pour épauler Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault au sein de la formation AG2R La Mondiale, a eu raison d'en profiter. Peut-être endossera-t-il un statut de leader au sein de la formation chambérienne.
Avec un leader qui a terminé avec une vingtaine de secondes de retard, c'est Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant du Tour de France. Là, Pierre-Yves Leroux, derrière la ligne d'arrivée, avec un client peut-être.
À côté d'Alexis Villermoz, qui est assis contre la balustrade, il est quasiment tombé de vélo et il est en train de reprendre ses esprits là. Il a du mal à retrouver son souffle, il vient d'enlever son casque, épuisé évidemment après cette montée terrible et cette victoire, les bras levés, il a les yeux fermés, il essaye de retrouver maintenant un second souffle avec les spectateurs qui sont juste derrière lui, qui le regardent. Forcément une image impressionnante, il va pouvoir évidemment profiter alors qu'on aperçoit Jean-Christophe Perrault qui est juste à côté. On va essayer de demander un petit mot à Jean-Christophe Perrault, évidemment. Jean-Christophe, un petit mot en direct. Il est là, Alexis, après sa victoire.
Il est énorme. Tout simplement énorme. C'est un des meilleurs punchers du monde. Ça a roulé à bloc. Tous les cadors ont pu que se rasseoir et il est sa victoire.
RMC Intégral Tour.
Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Ils ont le sourire ce soir. Nos vedettes de la Dream Team. Bonsoir Cyril.
La banane.
Eh oui, parce que franchement, s'imposer ici dans cette terre de cyclisme, terre sacrée qui est la Bretagne, c'est magnifique. Même si Villermoz n'est pas breton, évidemment.
Oui, mais la Bretagne refait revivre les coureurs français.
Exactement.
Oh,
salut
chauves,
Luc.
Hein.
Luc, il est en train d'envoyer des
non,
textos.
Non, je regarde. Qui, non.
Bonsoir
pas
Luc.
Pas de texto, je bosse.
Ah oui. Ça.
Bravo Lucho.
Ah oui, André, il regarde la fiche d'Alexis Villermoz.
Parce que là, il a engrangé beaucoup d'argent.
Tout le monde se foutait de moi hier soir.
Il nous a mis une rousse là au Paris.
C'était du nez, c'est bien, bravo.
Mais il a encore Thierry. Un peu d'instinct de temps en temps. Ça va Thierry, en pleine forme?
Tu t'es régalé? Français, et puis alors de belle façon, parce que je peux te dire que quand on voyait grimper le pied du mur, on se disait, et ça monte vite. Il y avait le leader, le maillot jaune qui envoyait du gros. Et puis là, le petit français, il a pris sa chance et il y est allé au bout. Il est allé au bout. Super. Super.
En deux temps en plus Cyril, hein, oui. Alexis Villermoz dans un premier temps a commencé à durcir en tête de peloton, ça a réagi dans un premier temps, ensuite il a pris la route Froome, il a de nouveau sorti un coup de chiclette comme dirait Luc Leblanc, impressionnant Alexis Villermoz.
Oui, impressionnant, dans un premier temps il met une une accélération qui n'est pas une véritable attaque. Il est accompagné par deux autres coureurs. Rapidement, il sent que ça va pas le faire. Il préfère dérouler et laisser rentrer. Quand ça rentre, il se met en deuxième position. Il arrive à se mettre en deuxième position. Froome fait le forcing. Alors, un, pour éviter d'être attaqué. Et puis, surtout, pour monter à son rythme. Et on est toujours dans les 10%. Et là, on le voit, il attend. Non, il avait une jambe au-dessus de tout le monde. Il s'est écarté à gauche. On peut même pas dire qu'il a véritablement attaqué. Il s'est déporté sur la gauche. Il a accéléré, il a regardé. Et là, après, il a mis. Et jusqu'à l'arrivée, il a creusé. Il ouais. finit quand même avec 10 secondes sur le groupe Froome. Seul Dan Martin parti en contre un tout petit peu tard.
Et qui est un spécialiste,
qui est un spécialiste, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, entre autres, dans une arrivée en côte. Un peu similaire d'ailleurs à celle-ci, hein. Eh bien, Daniel Martin est sorti. Il avait 5 secondes. À l'arrivée, il a 5 secondes. Il n'a pas repris une seconde sur les 500 derniers mètres.
Ah bon, c'est ce que
t'as Et j'ai presque envie de dire, victoire facile.
Victoire facile pour ce jeune coureur. Alors, que le grand public découvre évidemment aujourd'hui, Luc, mais toi qui as bien travaillé les fiches, ben tu oui, le connais ben depuis oui, non, un moment puisque tu l'avais donné vainqueur aujourd'hui. Oui, alors, oui. parle-nous un peu de ce.
Mais non, Alexis mais bon, Virgoz. Alexis, il n'est pas connu du grand public, ça fait pas longtemps qu'il est professionnel, il est chez AG2R depuis l'année dernière, il a été quand même champion du monde de cross-country, champion d'Europe aussi, mais bon, il a jamais fait ses preuves encore, je dirais, sur route,
et à partir sixième de cette année, de la flèche,
oui, voilà, mais
à
partir de cette année, même l'année dernière, il a commencé à marquer un peu de son empreinte le milieu cycliste professionnel en faisant un très beau Giro. Et puis là, il confirme vraiment tout son talent. Mais j'ai eu peur à un moment donné. Franchement, parce que la première attaque qu'il a faite,
tu disais c'est un peu
aujourd'hui,
tôt,
c'était un peu tôt, c'était un peu trop tôt. Il regardait, il se retournait trop tôt. Et après, il a vu que tout le monde était un petit peu dans le dur.
Facile, il est parti.
Et voilà. Il a bien vu que tout le monde était dans le dur. Et là, il a attendu un petit peu le bon moment. Et là, vraiment, il a fait un écart magistral. Et non, franchement, c'est un super coursier et qui mérite d'être regardé de plus près dans les prochains jours.
Alors, Thierry, c'est pas la première fois qu'un ancien vététiste oui. parvient au haut niveau sur route, hein. On se souvient de Cadel Evans, on se souvient aussi de Jean-Christophe Perrault. Pardon?
Et dans Bretagne plus particulièrement, oui. en plus. Parce que,
oui, parce que Cadel Evans, c'est Cadel Evans.
Exactement. Cadel Evans, tout le monde sait que c'est un ancien vététiste. Donc, franchement, c'est.
On se demande s'il ne faut pas aller chercher les futurs pros dans le VTT. Hein.
Ah ben, tu sais, c'est complémentarité.
Rappelez-vous ce que je disais l'an dernier après la seconde place, la place sur le podium de Perrault. Les VTTistes développent des qualités qui peuvent en faire des
sont
très grands
déjà.
Coureurs.
Ils sont très à droite.
Mais le regret qu'on peut avoir en France, c'est quand même Absalon.
Oui, évidemment, on en parle tous les ans de Julien Absalon.
Julien.
Ah bah oui, non mais là c'est
faire qui aurait pu faire une très grande carrière.
Il aurait eu la possibilité de le faire. Il a répondu d'ailleurs aux interrogations que l'on se posait. Pourquoi ne vient-il pas sur la route? Il a répondu dans la foulée d'ailleurs, ouais. en disant non, c'est trop long, je peux pas passer 6 heures sur le vélo à l'entraînement, moi il faut que je reste sur...
Il y a le côté ludique du VTT que n'a pas la course sur route, et c'est pour ça que Absalon n'est pas passé sur la route, mais évidemment ça aurait pu être un grandissime champion. Alors Alexis Virmoz, on va quand même vous en dresser le portrait. 27 ans, effectivement, comme le disait Luc, venu du VTT, il a remporté un titre par équipe, un titre de champion du monde par équipe, et puis depuis 2 ans, c'est vrai qu'il s'affirme véritablement avec cette 11e place dans le Giro l'an dernier, la 6e place aussi dans la Flèche Wallonne cette année. Alexis Virmoz, évidemment, que l'on a rencontré à l'issue de sa victoire, tout satisfait évidemment, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Alexis Virmoz.
C'est vrai que c'est vraiment le type d'étape qui me convient. Je suis pas sûr qu'en haute montagne je fasse le poids, mais je serai plutôt là pour aider Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault à essayer de rivaliser. Pour ma part, je suis vraiment un grimpeur puncher, donc ce type d'arrivée à fort pourcentage me convient parfaitement. Et la stratégie d'équipe veuille qu'on s'occupe du meilleur coureur. Ce type d'arrivée comme aujourd'hui au mur de 8, c'était moi qui était prévu pour l'arrivée. Et pour d'autres types de d'étapes, ce serait de courir.
Voilà, donc lui, il dit, ça me convenait parfaitement, mais dans les jours à venir, dans la haute montagne, ce sera peut-être pas forcément pour moi, mais plus pour Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet. N'hésitez pas à composer le 32-16 ou à envoyer un petit tweet sur le hashtag RMC Live. Il y a beaucoup de réactions, on en parlera tout à l'heure. On va, en attendant, écouter le leader, l'un des leaders de la formation AG2R, en l'occurrence, Jean-Christophe Perrault, qui était tout sourire tout à l'heure lorsqu'il a appris, lorsqu'il a vu surtout Alexis Villermoz remporter.
Son futur leader ?
Non, pour l'instant, on n'en est pas là. On
son
écoute Jean-Christophe Perrault.
Son équipier de luxe.
Il est énorme. Tout simplement énorme. C'est un des meilleurs punchers du monde. Ça a roulé à bloc. Tous les cadors ont pu que se rasseoir et laisser la victoire. Clairement, c'est un puncher de fou. Ouais, un peu qui m'impressionne.
Voilà, impressionné Jean-Christophe Perrault par son jeune confrère et son jeune équipier, plus exactement Alexis Villermoz.
À noter le ton de JC. Il est admiratif de ce qu'a fait.
Oui.
Gamin.
Mais ce qui est impressionnant, c'est que.
Mais est-ce que Alexis, ça veut dire qu'il est prêt à se mettre lui au service du gamin? Voilà. Enfin, du gamin qui a 27 ans, mais.
Il est assez intelligent, Perrault, pour faire la part des choses et se dire qu'il peut peut-être faire le boulot pour Villermoz s'il en a l'occasion.
Villermoz a attaqué a bien giclé, mais il a su garder son avance, voire l'accentuer sur le moins dur. Ça, c'est pas donné à tout le monde parce que. Généralement, le puncher arrive à flinguer sur le fort pourcentage, et puis après, il s'agit de remettre du braquet, ben il a un peu de mal. Lui, il a su aller jusqu'au bout.
Autre réaction, celle de Vincent Lavenue, le manager de la formation AG2R, qui a retrouvé le sourire ce soir. Lui aussi était surpris, étonné, admiratif devant la prestation de son jeune coureur Alexis Villermoz.
Il franchit les paliers 4 à 4 quoi, hein. c'est quand on voit le temps qu'il faut pour arriver à remporter ce type d'étape, il arrive, il est tout frais quoi. Il a 4 ans de vélo sur la route, ce gamin, 4 ans de vélo sur la route, 3 ans de pro, une année d'amateur, et là il est avec les meilleurs mondiaux, il les explose même, donc c'est quelque chose qui est, voilà, donc ça veut dire qu'il a des qualités intrinsèques incroyables. Il a aussi une grande clairvoyance et il est pas timide, hein. Vous avez remarqué que dans son positionnement il était pas timide, donc grande intelligence de course, qualité spécifique de punch incroyable. Donc voilà, je pense qu'il a un bel avenir devant lui encore. Hein.
Un bel avenir devant lui, 27 ans, c'est un bel âge.
Il va falloir le garder surtout.
Bah oui,
parce que là, je peux te dire qu'il va avoir des propositions de tous les côtés.
27 ans, c'est un bon âge pour. Et messieurs, si vous pouvez, permets que je pose la question là.
Non, oui,
mais
vous
n'arrêtez pas de couper. 27 ans, Cyril ou Luc ou Thierry, répondez à ma question. Est-ce que c'est le bon âge pour. C'est quelqu'un qui ne s'est pas grillé pendant des années à faire de la course sur route là. Il arrive,
non,
il arrive frais.
On se grille pas en faisant des courses sur route. Parce que vous savez que l'effort des compétitions en VTT, c'est du max en permanence. Vous avez 1h30, 2h de course, et même il y a quelques années c'était un petit peu plus, mais les distances ont été réduites. C'est 2h au max. C'est-à-dire que une course de VTT, c'est comme si vous preniez le départ d'un contre-la-montre qui dure 2h.
Mmh. Voilà.
Donc c'est beaucoup plus violent que sur la route.
D'accord.
Oui, mais c'est un peu moins.
Donc
long.
Si on doit se griller, c'est avant. Or c'est faux. Plus on travaille dans ces filières-là, et plus on progresse.
RMC Intégral Tour.
Alexis Villermoz, premier français donc à gagner sur le Tour, en attendant demain, peut-être le 14 juillet. Les Bleus aiment souvent se faire remarquer à cette date-là. Ce serait bien parce qu'ils n'ont pas tellement brillé au cours de la première semaine. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 17h43, c'est l'intégral Tour et on revit la première semaine de course. Qu'avez-vous pensé des Français en ce début de course? Alexis Villermoz a gagné une étape, on en a parlé il y a un instant. Mais sinon, dans l'ensemble, on les a peu vus, à l'image de Thibaut Pinot, annoncé comme un des favoris après son podium l'an passé. Et déjà loin au classement général, notre Dream Team est un peu déçu.
RMC Intégral Tour.
Sur la moto RMC, derrière l'équipe Sky.
Je peux vous donner un écart, il y a 6 secondes d'avance.
5. Ils vont finir à 5, les coureurs de la formation Sky Waterpool, qui s'est relevé. Et on voit Christopher Froome qui s'est positionné à l'avant de son groupe. Il se replace en deuxième position. Ils se mettent en danseuse pour partir sur cette ascension de la côte de Cadoudal. On l'a vu encourager ses coéquipiers, Christopher Froome, avant de partir sur la bosse. Ils sont dans les derniers kilomètres désormais, les derniers hectomètres de cette.
attention.
Cyril, tu voulais nous apporter
Oui, je voulais vous donner une information. L'équipe Sky a 6 secondes d'avance sur BMC à la flamme rouge.
Très bien, Cyril, qui avait annoncé la victoire de l'équipe Sky aujourd'hui et qui,
Il a sorti les chronos, les vieux chronos qui remontent à la main comme ça. Guimard, hein, c'est Guimard et ça reste un directeur sportif et il ne sort pas sur un contre-la-montre sans son chrono.
Est-ce que vous allez à la chasse sans fusil et sans cartouche?
BMC va-t-elle conserver son meilleur temps provisoire ici au sommet de la côte de Cadoudal, terme de cette 9e étape du Tour de France, le contre-la-montre par équipe, long de 28 km. Explication au sommet, on rappelle que BMC est en tête ici à Plumelec pour 4 secondes devant les Movistar de Quintana et Valverde. Tinkoff Saxo est 3e avec 28 secondes de retard. Les Astana de Nibali sont 4e pour 35 secondes de plus. Les Sky sont en train d'en terminer. Dernier virage à droite, Christopher Froome, maillot jaune, combinaison jaune, est en train de regarder sur sa droite et d'encourager ses équipiers, en particulier le solide gabarit de Yann Stannard. Ils en terminent à 5 et Christopher Froome encourage, il mobilise, pas question d'accélérer et de dépailler tout le monde. C'est Nicolas Roche qui fait de la résistance, me semble-t-il, à l'arrière du Quintet Sky.
Une seconde.
Team Sky battu pour 6 dixièmes.
62 centièmes.
Meilleur temps pour BMC. Victoire dans ce contre-la-montre par équipe des champions du monde de la spécialité pour 6 dixièmes devant Sky. Christopher Froome reste en jaune.
Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée avec des coureurs de la formation BMC heureux. Hein.
Ah, l'explosion de joie effectivement avec TJ Van Garderen qui était là avec Van Avermaet aussi. Les points levés pour TJ Van Garderen qui embrasse ses coéquipiers à l'instant alors que Chris Froome passe derrière nous juste à l'instant. Évidemment, grande joie parce qu'il y a eu du suspense. TJ Van Garderen avec ses coéquipiers qui étaient installés devant un écran à regarder l'arrivée de cette équipe Sky et il y a beaucoup de joie effectivement. Écoutez, voilà les cris de joie sur la ligne pour là l'exploit collectif cette fois. C'est plus individuel aujourd'hui, c'est l'exploit collectif pour cette équipe BMC.
Très bien, victoire de la formation BMC qui a bien terminé l'équipe Sky et notamment le cinquième homme Cyril qui ont
a
eu
fait perdre l'équipe.
On a vu image incroyable de Chris Froome qui recule quelque peu et qui va encourager son coéquipier. On aurait dit un chien de berger au milieu du troupeau en train de dire voilà les gars, étonnante.
On l'avait dit, c'est le cinquième homme. Le cinquième homme, c'est sur lui qui fait le classement. Eh bien, le cinquième homme de Sky les a tout simplement fait perdre, entre guillemets.
Oui.
Parce qu'on ne sait pas les bouts droits qu'il a pris avant, bien sûr. Mais à partir de moi, vous avez un coureur qui pète, et on l'a vu d'ailleurs à la flamme rouge, il était déjà en difficulté. Ce qui fait que de la flamme rouge à l'arrivée, ils ont été obligés de retenir. Et heureusement, sinon ils auraient perdu beaucoup plus de temps. Mais les 6 secondes, elles sont effectivement sur le dernier kilomètre et surtout sur les 400 derniers mètres.
On va rappeler les écarts et puis surtout le nouveau classement général parce que évidemment il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui en termes de général, Fred.
Oui, la victoire de la formation BMC, les Américains, de TJ Van Garderen, champion du monde de la discipline, qui devance pour 62 centièmes, 6 dixièmes, moins d'une seconde. Les Sky de Christopher Froome, Movistar est troisième à seulement 4 secondes de BMC, Tinkoff Saxo à 28 secondes, Astana lâche 35 secondes. Ce qui nous donne au classement général Christopher Froome toujours en jaune avec 12 secondes d'avance sur l'Américain TJ Van Garderen. Alberto Contador est 5e à 1.03. Attention au Colombien Uran, 6e à 1.18. Valverde pointe maintenant à 1.50. Quintana à 1.59. Nibali à 2.22. Barguil à 2.43. Perrault à 3.30. Bardet à 4.38. Et Pinot à plus de 8 minutes. Voilà pour la substantifique moelle du classement général.
RMC
contre la montre par équipe remportée donc par l'équipe américaine BMC devant la Sky. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, un 62 centième d'écart entre les deux équipes, on vous le rappelle. Et Chris Froome conserve son maillot jaune de leader. Ce soir, on se pose la question au terme de cette première partie de Tour de France de savoir s'il reste encore du suspense. Certains nous disent que oui, d'autres non. Slim Shady sur le hashtag RMC Live nous dit si la Sky met son train en place sur toutes les étapes de montagne et que personne tente des coups de loin, Froome sera
imbattable, évidemment. Mais bon,
s'il n'y a pas d'attaquant, c'est sûr qu'il va se balader. Ouais.
Très bien, nous verrons ça en tout cas. Donc à partir de mardi pour les favoris du classement général, on va, messieurs, s'intéresser maintenant aux Français parce que là, bon, le bilan, il faut bien le dire, n'est pas fameux. Mis à part la très belle victoire de Villermoz hier, première victoire d'étape française sur les routes de ce Tour 2015. Mais alors au classement général, c'est peau de chagrin quand même. Hein. Le premier au général, le premier Français, c'est Tony Galopin qui est donc 11e à 2 minutes 01, mais on sait que Tony ne cherche pas à faire une place au général puisque évidemment en haute montagne il est un peu limité. Warren Barguil a rétrogradé au 14e rang aujourd'hui, il est à 2,43. Jean-Christophe Perrault est 17e à 3 minutes 30. Romain Bardet 21e à 4,38. Thibaut Pinot 29e à 8,05 et 36e c'est Pierre Roland qui est désormais à 11 minutes 43.
Là, voilà l'intérêt d'une bonne équipe en chrono. Parce que
oui, enfin, il y a pas que ce matin, que là que ça
ce matin
même,
les Galopins, les Barguil, ils étaient dans les 10 premiers. Mm-hmm. Et ils étaient pas si loin que ça. Et là, d'un coup, déjà, tu prends 2 minutes dans les carreaux, pratiquement. Hein, ouais. Parce que Galopin, c'est à peu près ça. C'est une 45 qu'il a pris.
Ouais. Oui, mais ça n'est pas important pour Tony.
Non, mais Barguil.
Il fait pas le classement général.
Et Barguil, il aurait pu se perdre.
Mais il vise une étape, là.
Barguil, je pense qu'il prend une 37 dans le... Alors, une 36 sur Froome. L'addition est lourde. Hein. L'addition est très...
Voilà, exactement.
Alors, Thierry,
lui, il pouvait espérer se placer au général.
Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer
encore.
Que peuvent-ils espérer, Thierry?
Les Français.
Français, ouais. C'est quoi? C'est maintenant, c'est un top 10.
Il faut pas prendre la course comme ça là. Et maintenant, c'est bon. On n'a plus rien à perdre. Je pense que il faut viser les étapes et puis. Et puis se faire plaisir.
Voilà.
Et prendre des risques.
Barguil, le top 10 est encore possible.
Oui, non, mais pour.
Si on retire, il est 14e, si on retire tous ceux qui vont disparaître mardi, il est entre la 8e et 10e place, s'il finit dans le groupe de tête, bien sûr.
Qui va disparaître? Van Avermaet, peut-être?
Il y a Van Avermaet, il y a Peter Sagan,
Geraint
Thomas, Stibar, Galopin, Kreuziger, et peut-être Nibali d'ailleurs.
Peut-être Nibali. Ouais, on sait pas. Tiens, on va écouter tout de suite Romain Bardet, hein, qui évidemment l'une des grosses déceptions de ce début de Tour de France, au même titre que Thibaut Pinot, même si Thibaut est encore plus loin, je vous le disais, à 8,05. Romain Bardet a-t-il changé son fusil d'épaule après cette 9e étape, après cette première partie de Tour de France? Sa réponse.
Pour moi, le top 5, non, ça va être compliqué. Non, ça va être très compliqué, je suis déjà très loin en général. Le top 10, je serais content encore, mais rien ne dit que je vais rester sur le classement général. Je vais peut-être partir sur des victoires d'étape aussi. Alors, on va faire un point avec toute l'équipe. Je suis sûr, JC est très bien placé. Comme je l'ai dit depuis le début du tour, c'est lui le leader numéro 1. Il y a vraiment de super étapes. Et avec la condition qui va crescendo, c'est vraiment pour cette 3e semaine que j'ai travaillé depuis longtemps. On voit les attentes élevées sur cette dernière partie de tour.
Voilà, Romain Bardet, le ton est abaissé de trois tons. Hein.
Il se pose encore une question sur le top 10, top 5.
Le top, non, il dit le top 5
top
pour 5, moi, c'est
ça risque d'être
c'est
difficile, mais ouais. Mais il a encore des ambitions au général. Chapeau.
Ouais. Rico, sur le hashtag RMC Live, vous dit vous êtes dur avec les équipes françaises. La G2R est une équipe de montagnards, les FDJ font ce qu'ils peuvent.
Ouais. Mais tant mieux, on
critique pas, on est réaliste.
Qui nous surprennent.
On critique pas.
Il faut bien le dire, Rico. On espérait mieux quand même. Je pense que tu espérais mieux comme nous. Tu espérais que Thibaut Pinot ou Romain Bardet soient mieux classés au général aujourd'hui. Malheureusement, ils sont passés,
on est déçus.
Ils sont passés à côté de leur première partie de tour. Ah, oui. Et quand on entend Thibaut Pinot nous dire, oh là là, j'ai mal au genou, j'ai la bronchite, on se demande même s'il va terminer le tour, hein. Donc il faut aussi dire les choses comme elles sont. Ça nous aurait ravi qu'ils soient évidemment là dans le top 5, prêts à bondir sur tout ce qui se passe. Mais malheureusement, c'est une déception. Il faut pas se voiler la face.
Pierre Roland est à 11 minutes, Pinot est à 8 minutes, Bardet est à 5 minutes, je sais plus.
4,38.
4,38. Il vaut mieux essayer d'aller chercher le classement par point, à point, que d'essayer de venir chercher
une
hypothétique place de 10e dont personne ne se souviendra dans 15 ans.
Ouais,
dans
un an.
En essayant d'aller chercher le maillot à poids.
vous avez une chance aussi d'aller chercher une étape de montagne.
Ah oui, mais oui, parce qu'on sait que les points distribués sont beaucoup plus importants pour le vainqueur de l'étape.
Mais il faut partir sur des raids maintenant. Pas les raids dans la plaine qu'on a vu depuis le départ du tour qui ne servent à rien.
Moi, ce qui m'en prune un peu du maillot à poids, ça veut dire qu'un mec qui a 11 minutes au classement général peut réaliser l'exploit d'être maillot à pois rouge.
Mais bien sûr,
à Paris.
Mais oui, la montagne, on n'en a pas encore vu. La montagne, elle arrive maintenant. Tu peux te retrouver en 11 minutes dans la plaine.
Ça veut dire qu'à la pédale, c'est pas forcément le meilleur grimpeur du tour.
Mais ça n'a jamais été.
Pratiquement jamais.
Tu enfonces des portes ouvertes. On le sait depuis longtemps.
Oui, on le sait depuis longtemps. Mais c'est pour ça, c'est chiant. Excuse-moi de te dire, c'est chiant.
Le meilleur grimpeur du tour, c'est celui qui gagne le tour.
Mais voilà, mais c'est chiant de pas voir le maillot à pois rouge. À la limite, c'est le premier du tour, mais c'est lui le maillot à pois rouge puisqu'il était le meilleur partout, même en montagne. Et je sais pas comment on peut réviser les points et tout ça, ça va pas.
Bah dans ces cas-là,
alors,
Le maillot vert qui récompense le meilleur sprinter, mais aujourd'hui c'est pas le meilleur sprinter.
Ou alors, faire un chrono à chaque pied de col jusqu'au sommet.
Oui,
et là,
ça serait plus judicieux ça. Voilà. Ça serait vraiment
le
meilleur
un chrono, c'est voilà le temps pris au pied du col jusqu'en haut à chaque fois.
Attends, t'as des gars qui vont faire le meilleur chrono, ils se laissent larguer dans le premier col.
Mais c'est pas possible. Des gars qui vont faire le chrono, mais attends,
ils vont faire un top zéro. Virag, il a été 7 fois, je crois, meilleur grimpeur du tour.
C'est comme ça qu'il est devenu le coureur.
Et qu'est-ce qu'il faisait? Bah, Virag, il regardait les étapes. Je vais vous dire comment il faisait.
Oui, il y a le plus
là,
de
la
montagne.
Première, arrivé au sommet, là, de toute façon, à la pédale, je peux pas jouer. Donc, il montait, cric-crac, 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 tranquille. Le lendemain, oh putain, c'est encore dur. Je vais peut-être essayer d'aller faire sur le premier grimpeur. Il va pas y avoir la grande bagarre. Je vais essayer d'aller marquer quelques petits points, mais juste quelques petits points. Je vais pas aller les taquiner. Et puis, le lendemain, dis-donc, putain, t'as 4 cols. Et ben là, il sortait où ? Il sortait sur le premier col et il passait en tête au premier, il passait en tête au deuxième, il passait en tête au troisième et quelquefois, même si ça finissait en haut, il allait chercher le 4. Il arrivait, il avait 70-80 points d'avance sur le deuxième, il n'y avait plus match.
Les Français, je dis bien, si on écoute ce que tu viens de dire, mettez-vous dans la tête, le jeudi 16 juillet, il y a l'étape pour faire ça.
Et oui.
Bah oui, oui,
y a
tout à fait.
Un première catégorie, deux premières et un hors catégorie. Et comme tu dis, à la rigueur, si tu veux gagner une étape, tu peux espérer aller la gagner. Ça dépend
comment ça se passe derrière. T'es pas dangereux au général, ça se neutralise.
Ça dépend s'il y a la guerre derrière entre les meilleurs.
Alors je me fais insulter sur le hashtag RMC Live par Lucien. Lucien qui nous dit arrêtez d'agresser les auditeurs, bande d'incapables. On n'agresse pas les auditeurs, Lulu, t'inquiète pas. On les adore nos auditeurs.
Et Lucien, on n'est pas des incapables, bande d'incapables. Mettez-vous derrière le micro.
C'est du débat
avec le casque.
C'est comme ça que ça se passe.
Bande d'incapables.
Ah Lulu, la bonne
tête. RMC Intégral Tour.
Ben voilà, c'était assez animé, on va dire, pour revivre ensemble les 10 premiers jours de ce Tour de France 2015. Comme ça, au moins, on est au point avant d'attaquer les Pyrénées demain. Il est 17h57 sur RMC et c'est l'heure des courses. Frédéric Zermati, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez à Maison Lafitte aujourd'hui.
Exactement. C'est un plaisir d'être lancé par vous, très cher. Aujourd'hui, dans le quartier, il y avait un nom partant de dernière minute, le numéro 7, qui n'a pas voulu rentrer dans les stalles et on a pris à juste titre la décision de ne pas le faire courir. Et la victoire est revenue au 14 Talk Show qui méritait bien une victoire à ce niveau. Il s'impose assez sûrement devant le 9 Royal Pras qui a bien terminé, le 6 Miasson se classe 3e, le 5 Ministre d'État 4e et le 12 Freedom Tower 5e. 14, 9, 6, 5 et 12 rapportent 31 119,80 € dans l'ordre exact d'arrivée. La tirelire de 10 millions, car tous les 13 du mois, le PMI met en place une tirelire de 10 millions d'euros, n'est pas tombée. Demain, elle sera de 4 500 000 € sur l'hippodrome de Longchamp pour le quintet du mardi 14 juillet. Un horaire un peu spécial, 17h25. Et je vais demander à Cédric de Génicourse, notre partenaire, s'il a trouvé un petit chocolat pour ce 14 juillet.
Bonsoir à tous, j'ai pris un outsider, le numéro 11, Hello My Love, entraîné par Karina Fé, monté par Mademoiselle Delphine Santiago, un tandem au féminin pour ce concurrent qui est régulier, en forme, et en tout cas, c'est une belle chance pour les places au vu de ses dernières tentatives.
Écoutez, moi, un cheval qui m'a beaucoup plu l'autre jour, c'était sa deuxième course de rentrée, c'est le numéro 13 Farzad. Je le pense tout à fait capable cette fois de s'imposer. Et puis je vous conseille également de racheter le numéro 16 Al Murkab pour ce quintet qui reste tous les quintets dans les handicaps assez ouverts. Donc n'hésitez pas à élargir les jeux. Et puis si vous voulez d'autres infos, des infos complémentaires, rendez-vous sur le site d'rmcsport.fr.
Merci Frédéric Zermati.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le Tour de France, on va en parler avec Cyril Guimard à 18h15. Beaucoup de sport olympique au programme également. Tony Estanguet va nous parler de la candidature de Paris 2024. On va célébrer la qualification de l'équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Rio. Partir à Moscou pour les Mondiaux d'escrime. On ira même à Londres avant le quart de finale de Coupe Davis Grande-Bretagne-France.
RMC Intégral Tour.